réaction à la publicité traditionnelle, deux millennials décident de fonder leur propre boîte de communication. Au menu, contenu et événementiel. On jase avec Jean-Francis et Martin Durocher de Bite Size. Bon podcast.
L'entertainment, il est voulu dans le sens holistique.
Exact. C'est quoi au final tout ça?
Une réaction. Une émotion.
Mais cette émotion-là, elle vient parce qu'on t'a emmené un contenu. Parce qu'on t'a poussé une idée. Parce qu'on t'a emmené dans un événement. On t'a écouté, on t'a étudié, on a jasé avec toi. On a passé par différentes personnes qui te connaissaient aussi, savoir qu'est-ce que tu penses. Puis après, on a commencé à réfléchir à une stratégie, tu sais, pour te parler, pour t'entraîner, tu sais. Parce qu'il y a un élément aussi que les marques, en ce moment, oublient, puis cette espèce de désaffection de la commandite. Tu sais, les agences, là, quand l'argent part dans les belles, tu comprends, dans les poches d'un événement, c'est pas dans les poches de l'agence, ça. C'est beau dire, on va dépenser une couple de millions, mais au final, tu fais rien qu'un 15% pour l'avoir placé, puis t'as pas de créa, puis t'as pas de si tu fais de la prod. Quand on a fait Montréal en fête, c'était une vision de se dire, OK, on va se créer quelque chose pour redonner. À l'agence, on avait eu cette discussion avec la quinzaine d'employés qu'on était à l'époque. On s'est dit, on va-tu aller faire une journée de bénévolat? On va-tu faire ça? Là, le mot de fait comme, partir un événement. Là, tout le monde, oh, tabarnak, une bonne idée. Puis là, on a ciblé, on a dit, regarde, il se passe rien le 31 décembre à Montréal. Pourquoi on ne devient pas la place pour fêter le 31, feu d'artifice, gros show. En plus, on fait, au mois de décembre, des activités gratuites pour toute la famille. Moi et Jeff, on vient d'une famille monoparentale. On n'était pas riches. Puis on se souvient très bien qu'en décembre, tu comprends, quand le BMX était acheté, puis ma mère recevait la famille, là, ça tombait pas mal à pogne tes patins, va jouer au hockey. Là, t'as dit, Chris, ça veut dire qu'il y a du monde qui a un besoin en ville de faire des activités. Puis quand on l'a starté, puis qu'on a dit « activités gratuites », j'ai dit, je me faisais remercier, je me suis fait payer deux règles de taxi dans la vie, OK? Parce que j'arrive tout le temps avec mes petits programmes de l'événement dans le taxi, puis j'ai dit, je peux te laisser, puis t'as... monsieur, c'est vous qui produisez cet événement-là? Ouais. Free ride for you. Pourquoi? Écoute, j'ai envoyé mes deux enfants là, on a fait telle activité, on est allé le 31, écoute, c'était carré.
Du instant gratification aussi, puis c'est ça qui est fabuleux avec l'événementiel.
C'est ça.
C'est que ton résultat, il est là.
Tu sais, c'est une autre relation, comme tu disais, au consommateur. Puis, si le consommateur est stable, fais attention. Mais s'il est avec toi, c'est carré. Mais ça prend plus de temps à s'en occuper quand il est avec toi. C'est une job de plus pour les marketeurs, c'est une job de plus pour les clients. Sauf que, à mon avis, elle est immensément gratifiante quand le full circle il est bien nourri. Tu sais, le buzzword, c'est agile. Tu sais, nous autres, on a entendu ce buzzword. Quand c'est sorti, le buzzword, on fait comme ah,
pas bon.
On n'avait jamais su se dire de même, mais c'est ça. On est pas mal agile, mais tu sais, un peu plus par la force des choses. T'sais, c'est comme si tu dirais au Chicken Swell, hey, vous avez toujours été agile. Ben oui, c'est sûr, on n'avait pas de budget, il fallait faire des miracles avec bonne scène. On vient de cette école-là, tu sais. Mais nos clients trippent. Ça veut pas dire qu'on travaille avec des petits budgets aujourd'hui, au contraire, on travaille avec des super beaux budgets. Pis...
T'es allé chercher ça loin, t'as une analogie de Chicken Swell.
Non, mais j'avoue, mais moi, ils m'ont toujours marqué,
ouais,
ces gars-là. Capable de faire
ouais, fabuleux.
Des choses dont tout le monde se souvenait, en humour, ce qui est quand même assez tough.
Ces
temps-ci. Ces temps-ci, surtout.
Oui.
Avec
rien.
Fuck all. Des boîtes de carton et des flashlights. Là. Nous autres, on a toujours le côté prod en nous. Autant prod événementiel que moi, j'ai quand même Zoufès, juste pour rien. GF, les films de ski. Prod de contenu. Marketing. Nous autres, on voit ça comme toutes des vases communicants.
On a déjà fait un truc d'avocat. Comptable.
On en fait un en ce moment.
Fait de l'immobilier.
On fait de l'immobilier. Ah ouais. On a fait des sites. Oh, ouais, on fait des sites d'immobilier. On est en train d'en faire pour des avocats, du branding, des trucs de même.
Mais en même temps, on va pas se leurrer. Là. Les marques, ils veulent parler à qui? Ils veulent fidéliser des gens. Fait que moi, si tu me dis jeunesse, moi, je te dis yes, 18-24, on va les fidéliser, mais de la bonne façon.
On dirait que la pub, à un moment donné, à partir du moment que le numérique est arrivé, les médias sociaux, les YouTube qui ont remplacé à la fois les disques et la TV. Ils écoutent la musique sur YouTube.
Non, ouais, ben oui. Puis ils s'entertainent sur des applications, pas à la TV.
C'est ça. Fait que pendant un bout de temps, on s'est retrouvé media-wise avec une complexité pour rejoindre ces 18-24-là.
Clairement.
Enfin, okay, on vit les 18-34, les 18-45, les 18, on s'est fait à croire qu'on parlait encore aux jeunes.
On
mais...
a désegmenté nos segments cibles.
Ouais. Hein? Puis c'est pas grave, 18-54, parce qu'il y en a des 18 là-dedans. Mais...
On s'entend-tu, là, on va se le dire, 18-34, ça n'existe pas. Moi, je te dirais.
Même 18-24.
C'est ça que j'allais dire. 18-22, c'est mon top quasiment. Ça, c'est fou parce que c'est comme une hyper spécialisation de champ d'intérêt par groupe d'âge. Ouais. C'est tout à fait normal. Remets-toi à l'âge de 18 ans, tu regardais un gars de 27 ans puis tu avais un vieux.
Mais
hein. Mais à 22, tu sortirais avec une fille de 27.
Toi, Norm, en ce moment, je veux dire, avec toute ton expérience, tu vois-tu un peu jusque quand tu parles de tes stratégies que tu faisais, je veux dire à l'époque avec tout respect, mais tu vois-tu que. Un peu là, la traversée du désert commence justement à payer fruit et que ce que tu prônais, mettons, back en, je sais pas, en 2005, en 2017, le monde sont comme « Ouais, c'était pas fou! »
Ce que je vois me donne l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail qui est fait, de l'énergie qui est dépensée dans les médias sociaux pour les mauvaises raisons. Connecter la marque et les consommateurs, pas grand marque pense comme ça, c'est plus m'accaparer des consommateurs. On est encore dans une grosse période d'apprentissage.
Clairement.
Les consommateurs, eux autres, sont en train de s'écœurer un peu. Fait que ça va nous aider à aller plus vite dans l'apprentissage parce qu'à un moment donné, il y en a qui vont faire comme...
Ciao, bye!
On regarde ce que les autres agences font, puis il y a beaucoup de monde qui chaîne très fort parce qu'on a le traditionnel. Mais maudit qu'on trouve la position précaire, nous autres, de notre point de vue, tu sais.
De leur côté aussi.
Je pense de leur côté aussi.
Surtout quand ils vont jouer dans le contenu. Parce que, vous savez, il y a des groupes de discussion, les clients, c'est dans 30 secondes, ils perdent le chiffre. Fait que le message, c'est un gros billboard. Ils ont une affaire à dire, ils disent bien.
Oui.
Quand tu essaies de créer de l'engagement, quand tu essaies de créer du contenu, puis tu es habitué d'avoir des prods avec plein d'étapes,
ça
coûte cher ta prod en assez.
C'est le paradigme, comme tu dis, entre le vieux modèle qui te dit on va faire une prod hyper léchée, parfaite, nanana, qui coûte souvent quelques centaines de milliers de dollars, voire des millions du 30 secondes, à le client qui dit non, avec ce même budget-là, fais-moi 60 contenus de 15 secondes. Nous autres, on est capable de réagir à ça de même. Pour nous, c'est une commande simple, facile à exécuter. On a les équipes en place, on a les créatifs en place, on a tout le même système de prod, mais agile pour ça.
C'est pas le même système de prod. Ouais, une agence qui, finalement, ce qui va se passer, ils vont faire affaire avec une boîte de prod, parce que le réalisateur, parce que l'habitude de travail, fait que, encore là, tu as pris ce réalisateur-là parce qu'il fait les choses de telle façon, etc. Fait que, tu as ce bout-là que tu as moins. C'est probablement bien plus proche de la prod. Du contenu qu'une agence
l'avait mûri. Ben, on le produit à l'interne en majorité. Puis quand on peut pas, ben, on a une boîte de pigistes justement où ce qu'on va shortcutter le réalisateur ou autre, si on en a besoin, tant mieux, mais on n'est pas là pour.
Mais on fait aussi affaire avec des boîtes de prod.
C'est vrai.
Ouais. Ouais.
On fait un peu de tout.
Mais nous, on a aussi cette vision-là du owned media. On travaille souvent avec nos clients pour qu'au final, ils développent une réflexion, une attitude, une compréhension du owned media. Qu'est-ce que toi tu fais qu'on peut transformer en histoire, qu'on peut transformer en contenu?
Généralement, toutes les marques, là, ils ont tellement de contenu, ils en ont du stock.
Là. Ils ont toutes du stock.
Ils ont toutes des histoires à raconter.
Ils sont souvent toutes aussi tellement occupés à faire le produit que toute l'histoire autour du produit, ils ne savent pas comment la communiquer. Imagine, là, quand on est tombé avec Seagull Guitars, 45 ans de lutherie au Québec. Ouais. Puis Seagull, c'est pas juste Seagull, c'est Norman, c'est La Patrie, c'est Godin. C'est Godin Guitar. Fait que là, on avait accès à M. Godin. Hey, une histoire fabuleuse. Le gars, tu comprends? Il travaille avec McGill d'un bar, puis il travaille avec Harvard de l'autre bar, puis il est sur des gros comités de luthiers, puis tout ça, puis ils font des tests de son sur des bois expérimentaux, puis tout ça. C'est écœurant. Lui, il avait tout ça. Mais la plupart de ces compagnies-là sont incapables de communiquer ça de belle façon parce qu'elles sont trop proches du produit, puis de toute façon, leur focus, eux autres, c'est de faire des meilleurs guides. Pas de raconter pourquoi ils font des meilleurs guides.
Amenez-vous le monde en amont là-dedans?
Le public, peu.
Non, mais ça arrive, ça arrive.
Les consommateurs dont tu parlais tantôt qu'il faut s'occuper comme des rockstar consommateurs, on l'a fait, c'est ça.
Okay.
Ouais. Pour 2-3 marques. Où on est allé chercher genre 10 personnes. On a créé, par exemple, pour Zoufest, on est allé chercher les 10 plus gros acheteurs de billets. Puis on leur a fait des testimonies.
Okay.
Cool. T'avais 10 capsules de pourquoi ce festival-là existe. Tout d'un coup. Puis eux ont amené des choses qui ont fait réfléchir l'équipe.
C'est sûr.
Puis qui ont fait que l'équipe s'est améliorée, puis ça a créé un engagement ultra powerful.
Ça, ça m'a paraît quasiment plus fort que la grosse tendance, c'est d'aller chercher des ambassadeurs, c'est-à-dire qui a la plus grande portée des médias sociaux, nonobstant qui la personne est. Chris, on retourne dans les années 60, ça n'a pas d'allure.
Moi, ce que je constate, c'est que ça s'est zéro démodé.
Ça s'est zéro quoi?
Ça ne s'est pas démodé du tout. L'attrait de la vedette, l'importance de la vedette pour convaincre, surtout au Québec.
Oh, mais partout dans le monde.
Dans les derniers 40 ans, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé d'un iota. Aujourd'hui, ça fonctionne encore. Le bon vieux Code Québec nous le disait, que nous, les Québécois, si une vedette nous parle de ça, on est 30% plus enclin à l'acheter. Puis je regarde aux États-Unis, puis l'utilisation de l'ambassadeur, de la vedette, écoute, ça... Puis est-ce que c'est parce que le client le demande, qu'il veut cette espèce de rapprochement? Des fois, oui, quand tu impliques l'artiste.
Ouais, les clients, clients sont crédibles.
Nous, on implique, quand on travaille avec des artistes, ils sont toujours impliqués en amont, sont assis avec les créatifs.
Ça fit, sinon...
Mais de la même manière que nous, on gère la carrière d'un artiste, on est appelé des fois chez d'autres agences. Par exemple, avec Jérémy Demé, on n'était pas l'agence, mais on a amené l'artiste pour faire des publicités avec McDonald's, donc sous la direction de Cossette. Mais puis Cossette a eu l'ouverture de dire « Voulez-vous venir dans le brainstorm? » On a fait « Damn right! » Puis rendu dans le brainstorm, ça a changé de bout pour bout. On l'a fait avec télé, avec l'Auto-Québec aussi. Puis Cossette, même affaire, ils sont arrivés, ils nous ont présenté un projet, on a fait « ça marchera pas. » On se dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais on fait ça, demain. Puis trois meetings après, c'était devenu un nouveau projet commun. Mais eux autres étaient bien contents. Nous autres, l'artiste a été rémunéré pour ce temps-là.
Ouais.
Puis au final, le résultat était juste meilleur. Puis avec McDo, c'est des lignes humoristiques dans un 30 secondes qui a été lancé.
Ouais. Ouais.
Puis qui est devenu qui a fait un bon buzz à l'époque.
Ouais.
Quand il avait fait le grand Angus avec McDo, puis il avait dit, Jérémy, il était au Stampede de Calgary, puis il disait à des Anglos sur leur gros cheval, la sauce est nice! Le sauce nice, puis ça a comme catché. Fait que c'est des petits trucs, des fois.
Ben, en fait, ça a tellement catché que ça le faisait dire dans ses shows, tu sais, deux, trois fois, la sauce est nice, il y avait quelqu'un qui gueulait ça, tout le monde partait à rire, tu sais.
Tu sais, l'idée, étais-tu de l'artiste, étais-tu du writer, on le sait plus là, mais tout ça a émané d'un brassage d'idées où on met l'artiste en amont et on ne le traite pas comme un comédien. Fait que si tu fais affaire avec un ambassadeur, si tu fais affaire avec un influenceur, à mon avis, tu dois le traiter comme un artiste, tu dois le traiter comme quelqu'un qui connaît sa communauté, tu dois le respecter dans ce sens-là. Puis là, tu établis une vraie collaboration qui peut fonctionner. Mais si tu me dis, hey, salut, je t'ai envoyé un package, pourrais-tu prendre une photo avec mon package? Tu disais, des agences vont traiter ces influenceurs-là comme des médias, mais je reviens à nous autres, connecting brands with people. Nous autres, on s'occupe du lien. On n'est pas sur le numbers game. On ne va pas aller te voir parce que tu as 25 000, juste parce que tu as 25 000 fans. Oui, c'est toujours la porte d'entrée. Mais après, on va apprendre à travailler avec toi, on va te poser des questions sur ta communauté, on va creuser un peu plus loin pour que justement l'espèce de fit, le win-win, le bon contenu à la bonne personne au bon moment se fasse. Puis on pense que c'est là, vers là, en fait, à notre avis, que ça va le marketing de plus en plus. Puis après, de faire l'espèce de loop aussi où on va se rencontrer dans un événement quelque part à un moment donné. On va se parler en vrai, en face à face. Puis garder ça vivant, tu sais.
L'engagement, il est dans tout l'écosystème d'une relation marque et non pas juste entre la marque et son consommateur.
Alléluia!
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Pizzcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!